Chapitre 14. Agnès est enlevée par la tante Betsy. Est-ce donc possible ? S'écria Agnès, aussitôt que la portière de la voiture fut refermée sur sa tante et sur elle. Est-il bien possible que je sois réellement sous votre garde et sur le chemin de votre foyer ? Tante Betsy !
De mon foyer temporaire, cher enfant, oui, certainement, nous y allons, dit la vieille dame en lui pressant la main. Mais j'espère bientôt en avoir un plus convenable pour vous, mon Agnès.
Où je retrouverai le bosquet et les abeilles, n'est-ce pas, tante?
Pas positivement, du moins pour le moment. Mais dites-moi, ne trouvez-vous pas que j'ai été très douce et très polie pour Mistress Barnabé?
Vous avez agi bien sagement en ne lui reprochant rien plus directement, la pauvre femme.
Oh, mais ma bonne chère tante Betsy, que vous la connaissez bien! Vous auriez travaillé une année tout entière à chercher la meilleure façon de la tourmenter, que vous n'auriez jamais pu rien trouver de mieux que cette idée de lui faire croire que vous avez une grande fortune et que, sans sa manière d'être vis-à-vis de vous, elle aurait joui de vos faveurs. Pauvre tante Barnabé, je ne puis m'empêcher de la plaindre.
Vous avez un cœur sensible, mon enfant, mais en même temps, vous êtes une petite flatteuse. Vous me faites les honneurs d'une habileté beaucoup plus grande que celle que je possède. Excepté au sujet des vieilles hardes qu'elle m'avait offertes chez Dame Sims, je n'ai nullement plaisanté avec elle. Mais dites-moi, Agnès, est-ce que vous n'avez pas horriblement souffert de la tyrannie et de la grossière ignorance de cette détestable femme? N'a-t-elle pas en quelque sorte brisé votre jeune cœur?
Je n'ai guère été heureuse avec elle, tante Betsy, répondit doucement Agnès. Mais quand elle dit que j'ai vécu à ses dépens, elle a raison, et à part tout ce que je dois dire pour me justifier à vos yeux, ceci doit clore mes lèvres et m'interdire de parler d'elle.
La vieille dame fut peut-être bien un peu désappointée de ne pas avoir le récit des bonnes histoires qu'avaient dû fournir les sottises de la veuve de l'apothicaire, la grande dame comme elle l'appelait. Mais en dépit de toute son originalité, Miss Compton était naturellement douée d'une assez forte dose des sentiments propres à une femme de condition pour comprendre la délicatesse d'Agnès, délicatesse qui lui faisait apprécier encore davantage le caractère de la jeune fille. Elle passa son bras autour d'elle et, la pressant sur son sein, elle lui dit « Étendez jusqu'à moi ces sentiments de charité chrétienne, Agnès, car j'en ai grand besoin. Cette seconde Martha Wisset, la pauvre dame, est née la première des enfants de sa mère, et il semblerait qu'avec son droit d'aînesse, elle ait pris toutes les qualités physiques et morales de cette mère aussi vulgaire qu'elle était illettrée. Moi, je n'ai pas cette excuse pour justifier le préjugé obstiné qui a rempli mon cœur et faussé mon jugement. C'est moi, en vérité, qui suis cause de tout ce que vous avez souffert auprès de cette femme, mon enfant. Je la connaissais bien, et pourtant j'ai supporté que vous... Mais il faut tâcher d'oublier cela. Rappelez-vous seulement que si je me suis détournée de vous, je n'ai jamais eu d'autre motif que la crainte de ne pas trouver en vous précisément ce que j'y trouve aujourd'hui. Mais nous voici à la maison. Pauvre chérie, combien vous devez avoir besoin de la paix tranquille d'un foyer à soi. Quand l'avez-vous jamais connue ?
À Hampton, tante, répondit vivement Agnès. Et bien que la portière de la voiture fût ouverte, bien que le marchepied fût descendu, elle ajouta « Le seul intérieur que j'ai jamais aimé, c'est à vous que je le dois. »
Quoique le mot eût été dit en courant, il tomba comme un baume cicatrisant sur le cœur bourrelé de la vieille dame. Elle y répondit par un affectueux « Soyez bénie !» Et les deux heureuses créatures, se tenant par la main, montèrent l'escalier. William, le domestique accompli, les avait précédés. La porte du salon était ouverte toute grande. On aurait pu trouver une pièce d'un confortable plus complet. Le petit feu qui brillait dans l'âtre, avec le sofa placé tout à côté, avait l'aspect le plus réjouissant, car la soirée était froide, comme toute soirée de septembre, après que le soleil a disparu. Des bougies sur la table de thé et sur la cheminée,
éclairée suffisamment pour qu'on pût voir une belle chambre, on ne peut mieux meubler. Une jeune femme, jolie, à la mise simple et convenable, s'avança au-devant de ces dames, offrant ses services pour les aider à enlever leurs manteaux. Agnès, après avoir regardé tout autour d'elle, se retourna vers sa tante comme pour lui demander d'une manière triste l'explication de ce qu'elle voyait. Miss Compton sourit et répondit à l'appel en disant « Vous attendiez-vous, ma chérie, à me voir apporter ma ferme et mes abeilles avec moi ?»« Non, tante Compton, répliqua très gravement Agnès, je ne m'attendais pas à cela, mais... » « Tante Betsy, Agnès, il faut toujours m'appeler Tante Betsy. C'est ce nom-là que prononça si joyeusement votre voix chérie quand j'entrais dans le repère ténébreux où je vous trouvais. Jamais je n'aimerai un autre nom autant que celui-là. Mais ne vous effrayez pas de ce que j'ai quelque peu changé ma manière de vivre, ma chère fille. Je ne vous inviterai pas à courir dans les rues de Londres pour venir me voir dans la prison pour dettes. » Je sais ce que mes moyens me permettent, Agnès. Il y a peu de ladies qui en aient de mieux établies, et je ne les dépasserai jamais. » Ceci fut dit avec un grand sérieux. La jeune héritière avait vraiment besoin de cette assurance pour être tranquille. Depuis les scènes par lesquelles elle avait passé, une ferme, une chaumière, une hutte même, lui auraient paru charmantes, pourvu que l'air pur du ciel soufflât tout autour d'elle et que ni loueur de voiture ni recors ne pussent y pénétrer. Mais, bien que n'ayant aucune inquiétude à ce sujet, le langage et les manières de Miss Compton ne la plongeaient pas moins dans un étonnement dont l'expression involontaire se lisait sur sa jolie figure et qui était loin de déplaire à la tante Betsy, la liseuse de romans. Rien ne manquait au sien, tout était au complet. Beauté, bonté, infortune, mauvais traitement, etc. Elle ressentait donc l'heureuse conviction que pour peu qu'il y eût un amoureux dans l'affaire, à condition qu'il fût admissible, en dépit de tous les obstacles, elle aurait dans ses vieux jours la consolation de pouvoir se dire qu'elle n'avait pu mieux choisir son moment pour cesser d'accumuler et pour jouir de sa fortune. Mais cet amoureux dans les nuages, Agnès ouvrirait-elle son cœur à sa vieille tante sur un pareil sujet? Avait-elle le droit en aucune façon de l'espérer? Pas encore, certainement pas encore, pensait Miss Compton, tandis que, le service de William fini et les ustensiles de thé enlevés, la tante et la nièce se rapprochaient du feu. Et elle recommençait encore à regarder ce charmant visage qu'elle aimait tant à contempler, d'abord parce qu'il était beau, et ensuite parce qu'il lui était impossible d'y découvrir la moindre trace de la plus légère ressemblance avec aucun des membres de la famille des Wissett. Mais, toute douce et paisible qu'était actuellement l'expression de cette figure, pour un observateur attentif, il était facile de voir de temps en temps passer dans les yeux ce regard d'une rêverie indescriptible qu'on ne rencontre jamais tant que le cœur n'a pas été initié à des émotions d'un profond intérêt. Miss Compton était une observatrice très attentive. Elle vit donc, aussi clairement que l'avatar lui-même, qu'Agnès avait appris à sentir. La vieille dame romanesque eut volontiers donné sa main droite pour posséder la confiance de la jeune fille, mais elle était bien résolue à ne pas la demander. « Croyez-vous que nous pourrons être heureux ensemble, Agnès ?» dit-elle avec une voix dont le ton enjoué, lorsqu'il n'était pas poussé jusqu'à l'ironie, comme il lui arrivait quelquefois, était singulièrement agréable à entendre. « Vous croyez-vous disposée à devenir ma petite et mignonne chérie ?»« Oui, je le crois, » répliqua Agnès avec la brusque rudesse de la sincérité. « Mais je crois aussi que je vous tourmenterai quelquefois, tante Betsy. » Vous avez déjà arrangé cela dans votre tête, n'est-ce pas ?» répondit Miss Compton, enchantée du ton badin qu'avait pris Agnès. « Alors, dans ce cas, je mettrai dans ma tête aussi, à moi, de m'arranger de façon à faire mon plaisir de ce que vous appelez un tourment. Quand comptez-vous commencer, mademoiselle? Qu'allez-vous me demander en premier? Allez-vous pleurer pour avoir la lune? Auriez-vous l'intention d'essayer de me la donner, tante Betsy, si je la demandais ?» dit Agnès en riant. Oui, certainement. C'est-à-dire, si vous daignez me faire savoir quelle espèce de lune vous voulez et vers quelle partie du ciel il faut que je me tourne pour la trouver. Jupiter, vous savez, est... Oh, ma lune est la plus haute et la plus brillante de toutes, dit Agnès avec un soupir, et, après être restée un moment silencieuse, elle ajouta « Tante Betsy, puis-je vous dire tout ce qui m'est arrivé ?»« Si vous m'aimez assez pour cela, mon enfant, » dit la vieille dame ravie, tandis que, malgré cela, une larme se glissait dans son œil noir limpide. « Si vous m'aimez assez pour cela, je sentirai que je n'ai pas abandonné mes abeilles et mes fleurs pour rien. » Agnès se rapprocha de sa tante et, après un moment d'hésitation, elle commença. « Je crois que dans toutes les histoires de jeunes filles, il y a quelque chose qui concerne un gentleman. Pour la mienne, il en est ainsi. »« Un jeune gentleman, j'espère, » interrompit la tante avec un sourire. Agnès rougit un peu, mais reprit « Il n'est pas assez jeune, tante Betsy, pour faire de la jeunesse sa plus grande qualité. » « Très bien, c'est pour le mieux. Il faut qu'il soit plus âgé que vous, ma chère. Continuez. » « Quand j'étais à Clifton, tante Betsy, je me trouvais souvent en société avec le colonel Hubert. » « Un colonel, voilà qui a l'air bien respectable. C'est le père du jeune homme, j'imagine. » « Non, vraiment, » reprit Agnès un peu déconcertée. « C'est lui-même qui est le seul gentleman dont j'ai quelque chose à dire, et sa sœur dit qu'il sera fait général le mois prochain. » « En vérité, un général, le général Hubert, une fort bonne connaissance, je n'en doute pas. On ne pouvait guère espérer que vous auriez la chance de rencontrer une pareille relation parmi les amis de votre tante Barnabé. » « Une bonne connaissance ? « Oh, ma tante, vous ne me comprenez pas du tout. Mais je veux tout vous dire. Le colonel Hubert est... Je ne puis pas vous le dépeindre. J'espère que vous le verrez, tante Betsy. Et alors, peut-être que vous ne vous étonnerez plus que du premier moment où je l'ai vu, j'ai pensé à lui comme à la seule personne en ce monde. » Agnès s'arrêta court, mais Miss Compton crut sa phrase parfaitement terminée. « Et lui, ce jeune colonel, que pensait-il de vous, ma chère ?»« Durant toute la durée de mon séjour à Clifton, le colonel Hubert n'en a rien dit, ma tante, » répondit Agnès en rougissant. « Et pourtant, je pensais, j'espérais ne pas lui déplaire, tout en sachant bien que cela n'avait aucune importance, puisqu'il appartient à une famille très distinguée, et que jamais on n'aurait pu songer sérieusement, je le comprenais bien, à une personne qui vivait avec ma tante Barnabé. Mais il arriva que je fis à Cheltenham la connaissance de la tante du colonel, Lady Elizabeth Norris, et celle de sa sœur, Lady Stephenson. Ces dames se montrèrent excellentes pour moi. Quand je dus partir pour Londres avec ma tante Barnabé, d'une extravagante manière, elles parurent fort inquiètes et me firent promettre de leur écrire, et, avant que j'eusse pu supposer qu'elles avaient appris l'arrestation de ma tante, juste le jour où on l'avait emmenée, tandis que j'étais seule, le soir, assise dans cette triste chambre, absolument comme vous m'y avez trouvée ce soir, le colonel Hubert... « Oh, tante Betsy, j'ai été tout aussi surprise que lorsque je vous ai vue. Le colonel Hubert est venu. » Ceci était tout au plus convenable, ma chère enfant, s'il savait que vous étiez seule. Il m'apportait une lettre de sa tante et de sa sœur qui me demandait le plus affectueusement du monde de venir chercher un abri chez elle immédiatement. Et je suis tout à fait sûre que lorsqu'il est venu, il n'avait nullement l'intention de parler d'autre chose. Mais je crois que j'avais l'air bien misérable et son cœur généreux n'aura pas pu le supporter. Il m'a dit qu'il m'aimait et m'a demandé de devenir sa femme. C'était généreux à lui, en effet, dans un si terrible moment, dit la vieille fille, dans les yeux de laquelle brillèrent encore quelques larmes. Et que lui avez-vous répondu, mon amour ? Je lui ai dit, reprit Agnès, qui tremblait et qui pâlissait à mesure qu'elle parlait, « Je lui ai dit que je ne pourrais jamais être sa femme. »« Ah bien, ma chère !» s'écria la vieille dame de l'air le plus désappointé. « Je pensais que vous l'auriez dit, que vous aviez une grande admiration pour lui, car je vous assure qu'il a bien l'air de la mériter. Mais vous l'aurez trouvé trop vieux pour vous, j'imagine. »
Non, 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 s'écria Agnès avec véhémence. Il est assez jeune pour que je puisse l'aimer, oh, et si tendrement. Si je lui ai répondu ainsi, c'est que je ne puis supporter la pensée de lui voir faire un mariage aussi indigne de lui. C'est que j'ai pensé que sa tante et sa sœur lui en voudraient s'il agissait ainsi.
Hem, voilà qui est fort généreux de votre part aussi. Mais je suppose qu'il sait mieux que vous.
Eh bien, qu'a-t-il dit alors, Agnès ?
Oh, tante Betsy, il a dit exactement ce que vous avez dit. Il a dit qu'il était trop vieux pour que je puisse l'aimer.
Et au souvenir de l'angoisse qu'elle avait soufferte à ce moment, Agnès cacha sa figure entre ses mains et se mit à pleurer. Miss Compton la regardait avec des yeux remplis de compassion. Un petit instant après, elle dit « Est-ce ainsi que vous vous êtes quittée, Agnès ?»«
Oui, » répliqua-t-elle en retirant ses mains de dessus son visage. « C'est-à-dire, pas tout à fait. Je ne pouvais pas lui dire, vous savez, que je l'aimais de toute mon âme. Ce n'était pas possible. Mais je lui ai dit quelques mots sur sa tante et sur sa sœur. Alors, oh, je n'oublierai jamais l'expression de sa figure, quelque chose comme un peu d'espoir. Je vous en prie, tante Betsy, n'allez pas me croire vaine, mais c'était certainement de l'espoir qui brillait encore dans ses yeux et qui vint changer tout l'aspect de sa physionomie. Pourtant, il ne m'a plus dit un mot de son amour, il m'a seulement demandé de lui promettre de ne jamais abandonner le toit sous lequel j'étais tant que je n'aurais pas entendu reparler de Lady Norris. Je le lui ai promis, mais ma tante, pouvais-je tenir ma promesse ? C'eût été lui obéir selon la lettre et non selon l'esprit. Et maintenant, j'arrive à la raison qui m'a poussée à vous raconter tout cela si vite. Que dois-je leur dire actuellement ? Comment faut-il leur écrire ?
Miss Compton ne sembla pas trouver facile de répondre à cette question, car elle resta quelques minutes à songer. À la fin, elle dit « Quant à arranger d'une manière convenable le côté amoureux de l'affaire, vous n'avez pas besoin de vous en alarmer, ma chère. Il n'y a pas là de grandes difficultés. Si vous êtes sûre de vous, si réellement vous êtes éprise d'un général et non d'un porte-drapeau, je ne vois pas qui pourrait vous contrecarrer, quoique cela sorte bien un peu de l'ordinaire. Il est gentilhomme, c'est le seul point sur lequel j'aurais pu me montrer sévère envers vous. » Mais, Agnès, ce n'est pas tout, et il faut que vous me laissiez agir à ma guise. Dites, voulez-vous me le permettre ?
Dans tout ce qui me concerne, chère tante Betsy, comment pourrais-je donner la préférence à toute autre manière d'agir que la vôtre ?
Soyez bénie, cher enfant, je ne serai pas un tyran, ou du moins un tyran bien cruel. Mais, Agnès, je n'aurai pas un instant de bonheur jusqu'à la fin de mes jours, si, lorsque vous reverrez ce gentleman et sa famille, vous n'occupez pas dans le monde un rang qui leur fera comprendre qu'il n'existe pas d'alliance plus honorable que la vôtre. Laissez-moi donc arranger les choses et vous verrez que tout finira bien. N'êtes-vous pas de mon avis ?
Certainement, répondit Agnès tout émue. Mais, tante Betsy, s'il pouvait me voir en ce moment, pourrait-il douter un moment que je ne sois quelque chose de plus que la pauvre fille qu'ils ont connue, vivant à la charge de Mistress Barnabée ?
Ce n'est pas là ce que je veux, pas du tout, mon enfant, répliqua vivement la vieille dame. Il ne faut pas que ce noble cœur, ce colonel Hubert, courtise une pauvre fille qui vit au crochet de n'importe quelle tante. Vous avez beau l'aimer de toutes vos forces, le monde pourrait toujours dire, et sa famille penser, que c'est son rang et sa position qui vous ont séduite. Non, non. Il ne faut pas que le colonel Hubert se hasarde une seconde fois à vous faire une proposition tant que vous ne serez pas la maîtresse absolue d'une fortune de 1500 livres sterling de rente. À ma mort, Agnès, si vous êtes sage jusque-là, je vous léguerai mes abeilles et les rentes en nature que je me suis réservées, car celles-là sont bien à moi.
mais en expiation du tort que j'ai eu de laisser la seule personne destinée à représenter ma famille passer 6 mois à la charge de Mistress Barnabé, il faut que je fasse tout de suite de cette personne la propriétaire indépendante des biens de Compton. « Chère, chère tante, » dit Agnès dont l'émotion était bien réelle, « ce n'est pas le moment de causer de pareilles choses. Laissez-moi vous dire que dans mon pauvre petit jugement, je ne trouve pas cela juste. Si j'ai jamais le bonheur de vous faire connaître le colonel Hubert, je m'en remettrai à lui. C'est lui qui discutera avec vous sur de semblables sujets. Oh, quelle joie ce serait pour moi, tante Betsy, de vous voir un tel ami et de me dire que c'est moi qui vous l'ai procuré. » Il y eut dans cette explosion de sentiments une telle ingénuité, si jeune, si incontestablement sincère, que la vieille dame en fut grandement touchée. « Vous êtes une charmante créature, Agnès, » reprit-elle, « et vous avez parfaitement raison de ne pas vouloir que je discute affaire avec vous. Néanmoins, j'ai mes raisons de ne pas vouloir être présentée à la famille du colonel Hubert, ni à lui non plus, tant que je serai dans un appartement meublé. Écrivez à vos bonnes amies, ma chère. Dites-leur que votre vieille tante Compton a quitté sa retraite pour prendre soin de vous. Dites-leur aussi que les sentiments de votre tante pour vous sont ceux qu'ils doivent être. Mais non, écrivez comme vous sentez, moi j'écrirai de mon côté. Mais ceci ne sera que pour demain. Il est minuit passé, mon amour. Voyez, cette chose si élégante qui est sur la cheminée nous l'atteste. Il faut que je vous mène à votre chambre, mon hôte. Plus tard, peut-être, ce sera moi qui serai le vôtre. » On appela Peggy pour éclairer les deux dames jusqu'à leur chambre. Ces chambres étaient arrangées de la manière la plus confortable, même avec une certaine élégance. Mais l'une d'elles était pas mal plus grande que l'autre et avait le luxe d'un cabinet de toilette. C'est dans cette chambre qu'Agnès trouva sa valise et sa boîte aux livres, et ce fut aussi là qu'après avoir veillé à ce que le feu brillât convenablement et à ce que Peggy se tînt aux ordres de sa jeune maîtresse, l'heureuse Miss Compton embrassa Agnès, la bénit et la quitta pour la laisser se livrer au repos. Toutefois, il se passa bien du temps avant que quelque chose qui ressemblât à du sommeil vînt visiter les yeux de la jeune fille ce soir-là. Par quel changement, par quelle transition presque incroyable, avait-elle donc passé depuis la veille? Cela ressemblait plus à l'œuvre de la baguette d'une magicienne qu'aux conséquences naturelles des événements humains. De la position d'une pauvre fille déclassée, repoussée, bannie du toit qui l'abritait, elle était devenue l'unique objet de l'amour et des soins d'une personne qui semblait tenir entre ses mains la puissance de faire de la vie pour elle un paradis. Que de visions bénies flottèrent dans sa tête avant que tout se fondît dans une sensation générale d'heureuse sécurité qui vint enfin bercer son délicieux sommeil. Elle était presque aussi sensible que sa tante, qui était un peu orgueilleuse, au plaisir de se trouver réunie à ses amis de Cheltenham dans des conditions si différentes. Elle rêva qu'elle recevait Lady Elizabeth Norris ainsi que sa nièce dans un splendide palais situé sur les bords d'un lac ravissant, tandis que le colonel, tout debout, contemplait la rencontre en souriant.